Le lendemain matin, il sortit pour laisser la liberté de venir, dit-il, à la personne qui devait me parler. En effet, il s'était à peine écarté un quart d'heure que je vis entrer un capucin imberbe qui me salua d'un air bénin en me demandant si j'étais seul. Sur l'assurance répétée que je lui en donnais, il s'assit à côté de moi et me pria de l'écouter attentivement. Ma jeune dame, quelque envie qu'ait monsieur L de vous obliger, c'est une chose impossible. Votre mari s'est vanté hier en déjeunant de choses déshonorantes pour vous et pour monsieur le directeur, qui est obligé maintenant pour sa réputation de cesser absolument de vous voir et de s'intéresser à vous. Voilà ce que je suis chargé de vous dire. Ah, monsieur, que deviendrai-je ? Dites mon père. Je puis me confier à vous, repris-je. Je suis la plus malheureuse de toutes les femmes. Je suis malheureuse pour toutes les raisons possibles. Je suis mariée à un méchant homme que j'ai pris malgré mon père, dont j'ai fait le supplice. Eh bien, je sais un moyen de vous tirer d'embarras. Laissez-vous aveuglément conduire. Je ferai, mon père, tout ce que vous me prescrirez. Cela est fort bien. Il faut quitter votre maison, entrer dans un couvent où je vais vous conduire et y demeurer comme pensionnaire, mais inconnu. Vous jouirez de la liberté de sortir quand vous le voudrez. Ici, j'entendis un petit bruit dans le cabinet qui servait de cuisine, mais je n'y fis pas beaucoup attention. Cependant, je me tins sur mes gardes. Je vous préviens qu'il est des circonstances, comme celle où vous êtes par exemple, qui dispense d'être scrupuleuse. Votre mari est un infâme qui vous vendrait volontiers. Ce serait une abomination, il ne faut pas vous y prêter. Certainement, mon père, je ne m'y prêterais jamais s'il avait cette intention criminelle. Il l'a, soyez-en sûr, et ce que je viens de vous dire ne le prouve que trop clairement. Cependant, madame, vous êtes dans un cruel embarras. Monsieur L.T. vous estime. Vous pouvez recevoir ses secours. Quant à votre monstre, on saura lui fermer la bouche. Que répondrai-je à monsieur L.T. et à quand votre sortie d'ici ? C'est une démarche bien scabreuse, monsieur, que celle de quitter sa maison et un enfant. Je ne m'y prêterai qu'à deux conditions. Qu'on donnerait à mon mari un emploi capable de le faire vivre, et à moi, l'assurance de pouvoir rester décemment dans une maison religieuse. Il est inutile de vous cacher plus longtemps que je viens ici pour lever vos scrupules et que je parle pour monsieur L.T. que vous pouvez écouter vu votre position sans aucun scrupule. Quant à votre monstre, il y a de quoi le faire séquestrer, et il le sera si vous voulez avoir quelque complaisance pour monsieur L.T. Voilà tout. Je ne consentirai jamais à être la maîtresse de personne, mon père. Vous le pouvez, en conscience. Cela ne sera jamais. Laissez-vous persuader. Non, non, monsieur, comment un homme de votre robe peut-il se charger d'une pareille commission ? Comment pouvez-vous démentir ainsi les principes que vous devez avoir reçus ? C'est que la nécessité est au-dessus de la loi. Vous êtes perdu si vous n'acceptez pas. Je toucherai monsieur L.T., répondis-je, et il ne sera pas inexorable aux prières d'une infortunée sans ressources. Non, vous ne le toucherez pas. Il veut que vous cédiez, et à cette condition, il vous assure un sort. Bicêtre sera celui de votre indigne mari. C'est un parti pris et le seul raisonnable. On le connaît mieux que vous ne le connaissez. Sa langue est encore plus meurtrière que sa main, quoiqu'il ait ôté la vie à plusieurs personnes à ce qu'il dit lui-même. Je persiste, monsieur. J'espère toucher monsieur L.T. Non, je vous le répète, vous ne le toucherez pas. Connaissez combien il désire vous être utile et combien cependant il est ferme dans ses principes. C'est monsieur L.T. qui vous parle. À ce mot, je frissonnais, ne doutant pas que Moresquin ne fût dans le cabinet et n'écouta la conversation. Je serrai la main de monsieur L.T. en lui disant « Ce déguisement est dangereux, monsieur, sortez et disparaissez le plus promptement possible !» Un coup d'œil expressif accompagnait cet avis. Monsieur L.T. se leva, et il était déjà entre les deux portes quand Moresquin parut. Il sortait du cabinet par la porte extérieure. « Mon père, dit-il en riant, vous sortez de chez moi ? Je serais charmé de vous dire un mot. Rentrons !» En même temps, il le poussa dans la chambre. « J'ai tout entendu, mon père, je sais qui vous êtes. Il me faut un emploi où je vous fais arrêter chez moi et conduire au couvent. Vous êtes à ma discrétion et je ne suis pas disposé à vous faire grâce. Allons, père L.T., point de façon. Un emploi, un écrit qui me mette en sûreté de votre part et sans louis en nature ou en bons effets, voilà ce qu'il me faut. » Monsieur L.T., pris au trébuchet et connaissant l'homme, fit de bonne grâce l'effet de 100 louis. Mais il sut esquiver les deux autres espèces d'engagement par des promesses et des observations. Moresquin le laissa sortir, et après néanmoins l'avoir assuré qu'il s'y prenait mal de s'adresser à moi pour m'avoir, que lui seul pouvait disposer de ma personne et de mes faveurs, que cela était si vrai que s'il voulait prendre les engagements convenables, il ne sortirait pas sans avoir tout obtenu. Monsieur L.T. parut effrayé de cette offre impudente. Il se hâta de sortir en disant qu'il ne refusait pas, mais que dans le moment, il était trop troublé. Lorsqu'il fut parti, Moresquin éclata de rire d'une manière affreuse en me disant que je ne préparasse pas le dîner, que je m'habillasse et que nous irions manger une matelote à la râpée. Il fallut obéir. Je tremblais. Je ne savais pas si M. L.T. accepterait ou refuserait l'infâme proposition. J'étais concentré. Il me fut ordonné de rire, et je fis comme ses enfants, qui rient des lèvres en pleurant encore parce qu'ils voient le fouet levé. Moresquin fut très content pendant cette partie, dont il mit en sortant deux de ses confrères. Il n'est pas possible de rendre ses discours. C'était un délire d'obscénité et de projet de l'intérêt le plus bas. Les deux hommes en étaient dans un étonnement de dégoût. Moresquin attendait le lendemain des nouvelles de M. L.T. Il n'en eut pas. Il ne doit jamais en avoir, si ce n'est pour des témoignages d'indignation et de mépris. Je fus forcé d'y retourner, mais la porte me fut refusée. Moresquin était un homme trop dangereux et l'excès de sa scélératesse fut, en cette occasion, ce qui me préserva. Les 100 louis escroqués ne durèrent pas 3 mois. Moresquin, sans emploi, jouait et perdait. Il traitait ses amis, il prodiguait pour faire croire que j'étais entretenu par M. L.T. Il réussit à me diffamer sans nuire à M. L.T. On me crut la complaisante de quelque autre. Enfin, l'argent finit, et le jour du dernier écu, il arriva une scène cruelle. On se rappelle que j'étais alors enceinte. C'était de ma fille qui est morte en langueur. Moresquin voulut aller à la comédie et m'y emmener. Je lui représentai que nous n'avions rien et qu'il conviendrait mieux qu'il allât seul au parterre que de me mener pour dépenser un écu. Il m'ordonna de partir. Mais ma représentation l'avait irrité. Il me traitait en route comme une esclave, ou plutôt comme une fille qu'un libertin fait marcher devant lui. Tout le monde nous regardait et je mourais de honte. Je profitais d'un embarras qui survint et qui nous sépara pour m'en revenir à la maison. Je croyais qu'il continuerait sa route et je me disposais à m'en aller chez ma tante quand il arriva, presque aussitôt que moi. Je me sauvai par une des deux portes. Il me rattrapa néanmoins par la jupe et me donna un si grand coup de poing que j'en tombai évanoui. Il m'abandonna dans cet état, croyant m'avoir tué. J'étais dans un endroit obscur, hors la porte. Il s'enferma et se mit au lit. Je revins à moi, je ne sais à quelle heure, mais c'était dans la nuit et tout était tranquille. Je me hasardai de frapper, n'en pouvant plus et me sentant mourir. mais il refusa d'ouvrir. Une locataire m'entendit. C'était une méchante femme, mais elle fut touchée. Elle vint me prendre, m'aida à rentrer chez elle, me réchauffa et me préserva de la mort. Mais l'infortuné fruit que je portais dut ses incommodités et sa destruction, qui les a suivis, à son abominable père. La femme me ramena le matin au pied du monstre. Je l'avouerai, j'attendais la mort. Il se contenta de m'accabler d'injures si atroces que les cheveux en dressaient à la tête. La femme fut obligée de lui dire « Battez-la, tuez-la, vous serez pendu. Faites-la coucher à la porte, elle y crèverait que je ne la regarderai pas. Apprenez que je suis honnête femme, mais vous, qu'est-ce que vous êtes? Et si votre femme est ce que vous dites, qu'êtes-vous tous deux ?» Elle se retira en achevant ces mots et, tout en s'en allant, elle disait « Si le plancher tombait et qu'il les écrase, ce serait bien débarrassé. Des gens comme ça sont mieux morts qu'en vie. » J'étais redevenue languissante depuis le coup violent qu'il m'avait donné. J'approchais du terme et je n'étais plus présentable. Aussi étais-je traitée comme un chien. Moresquin avait pris chez lui une fille fort laide et fort mauvais sujet d'environ 16 ans. Son plaisir fut de donner autorité sur moi à cette fille du commun, sa filleule. À son retour, il se faisait rendre compte par elle de toutes mes actions pour me corriger, disait-il. Le monstre, trop ressemblant à son parrain, empoisonnait tout. Et je recevais des soufflets en sa présence, je dînais à terre, tandis qu'il était à table, et je souffrais d'autres indignités comme de me trousser et de recevoir par elle des coups de fouet comptés par son infâme parrain qui criait souvent « Plus fort ! Plus fort !» Ces indignités dont je n'osais parler furent connues néanmoins par l'indiscrétion de cette filleule qui s'en vanta dans le voisinage. Mais elle fut la dupe de son bavardage. La femme à laquelle le trait du fouet fut raconté renvoya la filleule sèchement et, sur le champ, alla faire part à 3 ou 4 voisines de ce qu'elle venait d'apprendre. Ces femmes, toutes du commun, furent indignées. Elles vinrent au nombre de 5 et entrèrent chez Moresquin, précisément dans un moment où la filleule me traitait fort mal. J'étais révolté et je la menaçai d'un soufflet. Elle m'apporta sa joue en me disant « Donne, donne le don !» En effet, je n'osais pas le donner. « Tu fais bien, reprenait la petite, car tu serais arrangé tout de rôti. Tu aurais plus de coups de pied et de coups de poing que tu n'as de cheveux à la tête. » Comme elle achevait ces mots, elle reçut un soufflet si violent qu'elle fut renversée sur sa chaise. Elle se releva en s'écriant « Ah, chienne, tu m'as frappée !» Mais en même temps, les 5 femmes l'environnèrent en s'écriant « Il faut faire justice de cette petite gredine-là » et elles la souffletèrent tant qu'elles en eurent la force. La filleule tomba d'épuisement à leurs pieds, mais elles étaient si enragées qu'elles la frappaient encore. Enfin, elles cessèrent. On la releva, mais pour lui dire « Allons, fais ton paquet, salope, et pars. Allons, allons, ne fais pas tant la carpe pâmée. » La fille trouva des forces quand elle vit les mains levées pour la frapper encore. Elle arrangea tout ce qui lui appartenait et partit, en recevant pour adieu un coup de pied accompagné des épithètes convenables. J'étais tout étonné de cette exécution qui se faisait chez moi par des étrangères. À peine me regardaient-elles comme quelque chose. Elles ne me dirent presque rien. Elles parlaient entre elles. Je vis, par leur discours, qu'on me prenait pour une femme sans cœur qui restait par stupidité avec un monstre tel que Moresquin. Hélas ! Elles ignoraient que j'étais alors sans ressources. Elles ignoraient qu'une mère, ma plus cruelle ennemie, m'aurait repoussé dans l'abîme si j'avais voulu me sauver dans les bras de mon père. Cependant, leurs discours me firent naître, pour la première fois, une idée qui pouvait m'être salutaire et que j'eus l'occasion d'exécuter le soir même. Moresquin ne rentra qu'à minuit. Je venais de me coucher, accablé de mes souffrances et du trouble de la journée. Il demanda sa filleule. Je lui racontai mot pour mot tout ce qui s'était passé. Il est impossible d'exprimer dans quel excès de fureur il se mit. C'était une rage. Il leva la canne pour me frapper en me disant « Salope, poison, vermine, il faut que tu périsses. Mais auparavant, il faut que tu me fasses à souper. Lève-toi » Comme il grinçait des dents, écumait de la bouche, ma frayeur fut si grande que je m'évadai pour me sauver chez ma tante Bitaise, la même qui a fait mon malheur. J'y arrivai à 1 heure du matin. Moresquin vint sur le champ m'y chercher, mais je ne pus me résoudre à retourner qu'avec la servante de Madame Bitaise, dont la présence contint le brutal à un certain point. J'eus encore par là un autre avantage, c'est que les indignités que me dit Moresquin à notre retour et pendant la nuit persuadèrent de ce qu'on avait eu peine à croire auparavant. Il fut démasqué.